Mais à mesure que la matinée s'avance, les orateurs deviennent plus bruyants et beaucoup plus répétitifs. Et Méripate a commencé à sentir son indignation faiblir quand elle aperçoit une femme qui a les mêmes cheveux que Jules se faufiler à travers la foule. Le visage est plus rond et plus âgé que celui de Jules, mais les cheveux sont pratiquement identiques. Et tout d'un coup, c'est comme si elle la perdait de nouveau. Comme si elle la perdait encore et encore. Comme si elle revoyait Jules bébé. Elle la tient dans sa main, toute nue, en train de brailler. Et puis, elle revoit en accéléré toute la vie de sa fille. Elle l'observe comme on observe un train qui passe devant vous à toute allure. Les premières dents, les premiers pas, la première grippe, les genoux égratignés, les dents de devant qui tombent, les couettes du cours préparatoire, la queue de cheval du cours élémentaire, le cœur définitivement brisé en cours moyen quand Méripate lui dit « Papa ne reviendra plus jamais à la maison ». L'acné à 12 ans, des seins à 13, en même temps qu'une apathie générale. Le diplôme en fin de collège. Les soirées de bal du lycée, la fin de la phase apathique, coïncidant avec le déclin final de Noël. Le retour de son culot, de son humour, de son rire sonore et loufoque. Et puis, elle n'est plus là. Sa fille n'est plus là. Elle a quitté cette vie. Elle s'en est allée dans un grand vide. Il y a dans le cœur de Méripate, des cavités qu'elle était certaine d'avoir hermétiquement fermées et qui s'ouvrent d'un coup et s'y engouffrent tel un raz-de-marée. Un sentiment de perte abyssale. Soudain, elle ne parvient pas à se rappeler ce qu'elle fait là, ni pourquoi elle devrait en avoir quelque chose à foutre de la raison pour laquelle des Noirs, des Juifs ou des Asiatiques traversent le pont pour venir dans ça aussi. Jules. Jules. Pourquoi m'as-tu quitté? Où es-tu allé? Est-ce que la douleur s'est calmée, mon bébé? Est-ce qu'il fait bon là où tu es? Est-ce que tu attendras que je t'y retrouve? S'il te plaît, attends. L'espace d'un moment, elle a envie de s'effondrer, de se laisser simplement tomber à genoux et hurler le nom de sa fille. Et elle aurait pu le faire si, à cet instant, la foule ne s'était pas précipitée sur la droite, comme si elle ne faisait qu'un seul corps, et Carole, près d'elle, souffle un mot. Teddy. Méripate regarde dans la foule et, maintenant, elle l'aperçoit, flanquée de son service de sécurité et de deux flics de la MDC, ses cheveux noirs lissés en arrière, assortis à son costume noir. Edward M. Kennedy, le frère du président assassiné qui a donné son nom au bâtiment fédéral à 50 mètres de là. Le sénateur Edward Kennedy sur la scène nationale, mais ici, à Boston, il est Teddy, principalement parce qu'il est irlandais. Et les Irlandais ne se donnent pas de grands airs. Alors le président Kennedy a toujours été Jack. Et le ministre de la Justice, Robert F. Kennedy, a toujours été Bobby. Mais peut-être qu'il est Teddy aussi parce que, des trois, il est celui qu'ils prennent tous ici un peu moins au sérieux. Il est si manifestement le plus jeune, si manifestement le plus en manque, en besoin urgent de reconnaissance. Et bien sûr, ils savent tous qu'il s'est fait virer de Harvard pour avoir triché, qu'il a abandonné sa maîtresse prisonnière d'une voiture qui s'enfonçait dans une rivière près de Martha's Vineyard et qu'il est attiré par d'autres femmes que la sienne, surtout quand il fait la noce dans les pubs de Beacon Hill et Ianisport. Tout ça ne serait pas un problème pour ses électeurs. Les bonnes gens de Southie, Charlestown et la moitié de Dorchester, après tout, il est l'un des leurs, un Irlandais, un Mick, un Paddy. Sauf que la bonne foi de Teddy est devenue suspecte ces derniers temps. Particulièrement en ce qui concerne les questions de race, et encore plus particulièrement le principe du busing, qu'il a pleinement approuvé au cours de plusieurs interviews récentes. Mary Pat sent l'hostilité de la foule à son égard avant qu'il ouvre la bouche, avant même que les gens aient ouvert la leur. Qui est-il pour venir faire son petit tour ici, avec son beau costume, sa coupe de cheveux soignée, sa cravate et ses chaussures de luxe, et leur expliquer ce qui est important? Ils savent ce qui est important.
« Hé, Teddy !» crie un type. « Tes gosses vont où à l'école, Teddy ?»
Teddy ignore la voix, bien que le type continue à répéter la même question toutes les 15 secondes. À ce moment, Teddy a pratiquement atteint la scène. Mais la foule s'est massée sur les marches pour l'empêcher de monter. Il se tourne vers l'un des organisateurs, Bernie Dunn, qui porte un costume marron beaucoup moins coûteux que celui de Teddy, et il dit « Ils vont me laisser monter !»«
Ça n'en a pas l'air, » répond Bernie. « Écoutez-moi, Teddy, je... »
« Ils doivent me laisser monter sur la scène !» dit Teddy.
« Non, ils ne doivent pas. Vous ne vous entendez pas.
Ce qui se passe est indigne, Teddy. Je comprends votre position, mais
rien. Nous ne laisserons pas un juge nous dire comment nous occuper de nos affaires, nous dire où nos enfants vont aller.
Je comprends, mais vous devez admettre qu'il fallait faire quelque chose.
Ils vont découper nos quartiers. »
Paroisse par paroisse, et vous les laissez faire. Et même, vous les aidez. Est-ce que vous allez me laisser parler ?
Demande Teddy.
Non.
Bernie semble un peu surpris lui-même.
Nous avons déjà entendu tout ce que vous avez à dire.
Et Bernie tourne le dos à un Kennedy. Tous ceux qui sont près de lui font de même. Puis, le groupe suivant les imite. Et peu à peu, le mouvement se propage dans toute la foule. Quand il atteint Mary Pat et les sœurs du Swab, Mary Pat a une sensation de vertige au moment où elle tourne le dos au sénateur Edward M. Kennedy de l'État du Massachusetts. C'est comme si elle tournait le dos au pape. Ceux qui ne se détournent pas de Teddy se tournent vers lui. Et d'après ce que Mary Pat peut entendre, les choses s'enveniment rapidement.
Tes putains de gosses vont où à l'école, Teddy ?
Tu vis où, toi, Teddy ?
Tu fais honte à ton frère et à ton peuple !
Retourne dans ta banlieue chic de Brookline, espèce d'enfoiré de tapette !
T'es plus un des nôtres !
Va te faire foutre, copain des nègres ! Va te faire foutre ! Va te faire foutre ! Va te faire foutre !
Elles entendent toute cette agitation et se retournent pour voir les flics de la MDC et les gars du service de sécurité en train d'évacuer Teddy vers le bâtiment qui porte le nom de son frère. Mary Pat reste perplexe devant le dos du costume de Teddy. Il est presque complètement blanc à présent, comme si tout un vol d'oiseaux lui avait chié dessus. Il lui faut une seconde pour comprendre que ce n'est pas de la merde d'oiseaux. Ce sont des crachats. La foule crache sur un Kennedy. Mary Pat en est malade. N'y a-t-il pas une ligne que l'on ne devrait pas franchir ? A-t-elle envie de demander à la foule ? N'y a-t-il pas un endroit où l'on devrait s'interdire d'aller ? La foule continue à cracher sur le sénateur jusqu'au moment où ses gardes du corps et les deux flics le font entrer dans le bâtiment fédéral. La façade de l'immeuble est en verre transparent, si bien que Mary Pat peut les voir le pousser vers les ascenseurs. Et on aurait dû en rester là. Tout le monde aurait dû reprendre ses esprits. Mais un panneau de verre grand comme un semi-remorque vole en éclats. De la foule s'élève une clameur d'approbation. Des cris de joie déchirent l'air comme du petit plomb. Une demi-douzaine de policiers se précipitent dans la foule depuis le bord de l'esplanade. Cela sert de rappel à tout le monde. Il y a un poste de police au grand complet à deux pas de là. Aussi, personne ne se précipite à l'intérieur de l'immeuble. Les flics ne donnent pas de coups de matraque et n'ont pas de gestes inconsidérés. Ils se contentent de tendre les mains, paumes en avant, pour que la foule recule de quelques pas. Ils répètent des « Allons, allons, on comprend !» et des « On se rend compte, vraiment !» comme s'ils parlaient à des enfants qui piquent une crise. La foule continue de hurler.
au moins une centaine de voix invectivant le juge Garrity et Kennedy et criant « On est là et on y restera ». Mais la violence se limite à ce seul panneau de verre, sauf si on compte les crachats.
« Eh bien, il nous a entendus », dit Carole aux autres sœurs du Swab. « Y a pas de doute, là, ils nous ont entendus ».
La fille de Joyce O'Halloran, Cecilia, s'approche du groupe de femmes, la mine renfrognée. Elle a les pommettes saillantes de sa mère, ses lèvres minces et son absence de menton. Ses yeux sont rouges d'avoir pleuré peu de temps auparavant. Joyce semble la remarquer sans la voir véritablement, parce que son ton reste léger.
Regardez un peu qui pointe son nez.
Vous entendez ça ?
Demande Cecilia, désignant la foule, ses yeux devenant plus rouges. Joyce allume une cigarette et regarde fixement sa fille difficile.
On entend quoi ?
Ça !
Mary Pat le remarque à présent. Les slogans de la foule se sont fondus en un seul. Au début, c'était un assortiment de « résistance » et « non à la dictature » et « ça aussi ne cédera pas ». Mais maintenant, il n'y a plus qu'un seul et unique slogan.
« Oh, chiottes les nègres ! Oh, chiottes les nègres ! Oh, chiottes les nègres !»«
Je ne vois toujours pas de quoi tu parles !»
dit Joyce. Les yeux de la fille s'agrandissent.
« Tu n'entends pas ça ?»
Les lèvres minces de Joyce deviennent encore plus minces et elle souffle sa fumée presque au visage de sa fille.
« J'entends des tas de choses. J'entends des gens qui se moquent de toi et des bouts de tes seins qui pointent sous ton t-shirt hippie. Quand tu porteras ça dans ton école noire la semaine prochaine, tu me feras savoir comment ils t'ont traité. J'ai pas peur d'aller à Roxbury High, man. C'est vous les parents qui transformez ça en cauchemar, pas nous les jeunes. Nous, ça va.
Mère, soutien-gorge, dit Joyce.
Et cette fois-ci, sa fumée va directement au visage de sa fille. Les traits de Cecilia se crispent. Sa mâchoire se contracte, puis se relâche. Et ses yeux deviennent froids.
Je peux mettre un soutien-gorge sans problème. Mais toi, comment tu soignes ta connerie ?
Joyce donne un coup de poing sur la tempe de sa fille. Joyce est grande, sa fille est petite, et l'impact envoie Cecilia à terre. Quand elle essaie de se relever, Joyce l'attrape par les cheveux et veut la frapper dans le cou, poing fermé. Mais Mary Pat passe son bras comme un crochet autour de celui de Joyce et bloque le cou. Elle regarde Joyce dans les yeux. Il y a là deux doses de rage. Une pour Cecilia, une pour Mary Pat. Non, dit Mary Pat. Arrête. Derrière elle, Cecilia se relève précipitamment. Mary Pat se détache de Joyce et, à présent, elles se font face à moins d'un mètre l'une de l'autre. Les autres sœurs du Swab restent figées de stupeur.
« Mary Pat, dit Joyce, écarte-toi !»
Mary Pat secoue la tête.
« Écarte-toi !» dit Carole. « Écarte-toi !»
crie Maureen.
« Mary Pat, dit Joyce, la respiration courte. « Je corrige ma fille comme bon me semble !»
Mary Pat secoue la tête encore une fois.
« Mais putain, dégage de son chemin !»
hurle Anna Spotchnicki.
« Personne ne touchera à cette fille !» dit Mary Pat.
Joyce se rue en avant. Elle est stoppée net quand Mary Pat lui enfonce son poing dans le plexus solaire. Joyce tombe sur la hanche et reste étendue par terre, la bouche ouverte, cherchant désespérément à reprendre une respiration qu'elle ne retrouvera pas avant une bonne dizaine de secondes encore. Trois des cinq sœurs restantes, Anna, Carole et Patty, passent à l'attaque simultanément. Elles doivent s'imaginer qu'elles sont coriaces parce qu'elles sont de ça aussi et qu'elles font régner la terreur sur leurs maris et leurs enfants depuis des années, se dit Mary Pat. Mais être de ça aussi est une chose. Être de la cité de logements sociaux Commonwealth en est une autre. Mary Pat baisse la tête comme un taureau et percute tout ce qui se présente. Elle ne se contente pas de tamponner. Elle pince, elle griffe, elle tire. C'est une vraie bagarre de rue, comme elle n'en a plus connu depuis le jour où elle s'était fait agresser par trois filles à Old Colony à l'époque du lycée. Elle arrache des boucles d'oreilles, cogne dans les parties génitales, empoigne des seins flasques comme si elle trayait une vache. Elle piétine les chevilles, donne des coups de pied dans les genoux, mord quelques doigts qui essaient de lui lacérer les joues. Elle perd une poignée de cheveux, récolte des égratignures sur tout le visage et les oreilles, mais bien vite, il y a trois garces de plus par terre en train de gémir et Mary Pat reste debout. Aucune d'elles n'ayant réussi à lui faire perdre l'équilibre. Et elle essuie le sang qui lui coule dans les yeux. Elle cherche Cecilia du regard, mais la fille est partie depuis longtemps. Noreen et Patty lèvent les mains pour lui faire comprendre qu'elle ne doit pas s'en prendre à elle. Elles paraissent toutes deux pétrifiées et indignées. Mary Pat se retourne vers ses victimes, assises ou étendues sur le pavé au milieu des morceaux de vêtements déchirés, des petits drapeaux en plastique, des éclaboussures de sang et des sachets de thé écrasés. Carole tient délicatement ses doigts ensanglantés et lève les yeux sur elle avec une fureur stupéfaite. La peau autour de son œil droit prend déjà une teinte pierre bleue. Il lui faut un moment pour réussir à former une phrase complète, mais quand elle y parvient, les mots sonnent aussi clairement qu'une cloche. « Tu es morte pour nous, » dit-elle. « Et quand ce que tu as fait ici, aujourd'hui, va se savoir, tu seras morte pour tout le monde à ça aussi. » Mary Pat hausse les épaules. L'heure n'est plus aux discussions. Elle se détourne et s'en va, fendant la foule qui s'écarte sur son passage.